Chapitre 7 de la pratique de l'humilité. L'humilité considérée par rapport à la pratique a trois objets: Dieu, le prochain, nous-mêmes. L'humble s'anéantit en présence de son grand Dieu. Il ne méprise jamais son prochain. Il est vil à ses propres yeux. Nous allons considérer la pratique de l'humilité sous ces trois rapports. Premièrement, de l'humilité considérée par rapport à Dieu. Saint Vincent de Paul disait que le vrai moyen d'acquérir la sainte humilité était de considérer la distance infinie qui existait entre Dieu et l'homme. C'était de considérer combien Dieu était grand et combien l'homme était petit. C'était de considérer combien Dieu était saint et combien l'homme était pécheur. Il disait que sans cela, on ne serait jamais solidement humble. Ne séparons donc jamais ces deux choses, Dieu et ses grandeurs infinies, nous et la profondeur de notre néant dans l'ordre de la nature et de la grâce. Celui qui se considère ainsi en la présence de Dieu avoue son néant devant la divine majesté. Il avoue sans cesse son incapacité absolue pour tout bien, s'il n'est secouru de la grâce. Il reconnaît qu'il mérite pour son ingratitude, pour l'abus qu'il a fait d'un bien si précieux, pour ses innombrables péchés, et surtout pour son orgueil d'en être privé, de tomber dans l'aveuglement, à la seule bonté de Dieu et toutes les grâces qu'il reçoit et tous les malheurs spirituels dont il est préservé. Il se reconnaît devant Dieu digne de tout châtiment et souffre avec une résignation parfaite toutes les afflictions intérieures et extérieures qu'il lui envoie. Il avoue avec le saint homme Job qu'il en mérite davantage. Celui qui se considère ainsi en la présence de Dieu, à la vue de tant de gloire et de grandeur, s'abaisse. Il n'ose, pour ainsi dire, lever les yeux. Il est dans une crainte salutaire de Dieu qui lui fait éviter la présomption et dans une grande confiance en Dieu qui le rend capable de tout. Il sait que cette sainte crainte est sans cesse recommandée dans les Écritures. Il médite sans cesse ces saintes maximes. Bienheureux l'homme qui craint le Seigneur. Bienheureux l'homme qui est sans cesse dans la crainte de déplaire à son Dieu. Il se rappelle sans cesse ces paroles de saint Bernard. L'expérience m'a appris que rien n'est aussi efficace pour attirer la grâce dans une âme, pour l'y retenir, pour la recouvrer lorsqu'on l'a perdue, que de marcher sans cesse devant Dieu avec humilité et de se tenir devant lui dans une crainte salutaire. Il sait que peu d'hommes se perdent par désespoir, que l'Écriture ne fait guère mention que de Caïn et de Judas, tandis qu'une multitude d'autres se précipitent dans l'enfer par l'orgueil et la présomption. Voilà pourquoi il opère son salut avec crainte et tremblement. Voilà pourquoi il prie sans cesse le Seigneur de ne pas l'abandonner. Voilà pourquoi, dans la vue de sa faiblesse, il évite avec soin toutes les occasions qui pourraient le faire tomber. Si on lui reproche sa sainte timidité, il répond: Hélas! Comment ne craindrais-je pas? Je ne sais si je suis digne de l'amour de mon Dieu ou de sa haine. Je ne sais si je suis dans la grâce de mon Dieu et si j'y persévérerai. Je ne sais si j'aurai le bonheur de bénir éternellement mon Dieu dans le ciel, dans la compagnie des anges et des saints, ou si, tison de l'enfer, Je ne le maudirai pas avec les démons. Comment puis-je être sans crainte? Comment ne pas craindre? Celui qui se considère ainsi en la présence de Dieu est persuadé qu'il y a plus de gloire à s'humilier devant Dieu qu'à commander à l'univers entier. Il sait qu'il peut tout en celui qui le fortifie. Il est persuadé que Dieu se plaît à faire de grandes choses par ce qu'il y a de plus faible et de plus méprisable aux yeux des hommes. Il se rappelle ces paroles de l'apôtre que Dieu a choisi ce qui passait pour fou aux yeux du monde pour confondre les sages. Que Dieu a choisi ce qu'il y avait de plus faible selon le monde pour confondre ce qu'il y avait de plus fort. Que Dieu a choisi ce qu'il y avait de plus vil et de plus méprisable selon le monde, et ce qui n'était rien pour détruire ce qui était, ce qui paraissait capable de tout, afin qu'aucun homme ne se glorifie devant lui, ou de sa sagesse, ou de sa force, ou de ses talents, ou de toute autre chose. De là, une sainte générosité quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. De là une sainte confiance en sa vertu. De là tant de courage pour entreprendre de grandes choses pour Dieu et tant de force et de persévérance pour soutenir les entreprises les plus difficiles et pour résister aux ennemis de sa gloire. Oh, que l'humilité est une admirable vertu. Deuxièmement, de l'humilité considérée par rapport au prochain. Celui qui possède la vraie humilité met en pratique cette recommandation de saint Paul. Que chacun, dit-il, par humilité, regarde son prochain comme son supérieur. Oh, l'admirable règle de conduite! En conséquence, l'homme vraiment humble croit les autres meilleurs qu'il ne l'est lui-même. Il se croit le dernier des hommes, le plus ingrat et le premier des pécheurs. Il ne se préfère pas même aux plus grands pécheurs. Il sait que son maître met les pécheurs publics même et les femmes débauchées au-dessus des orgueilleux, des envieux, des avares et des hypocrites. Il a toujours devant les yeux ces terribles paroles: ils entreront plus tôt que vous dans le royaume des cieux. D'ailleurs, il sait ce qu'ils peuvent devenir avec le secours de la grâce. Dieu ne peut-il pas en un moment enrichir le pauvre? Rien ne lui est plus facile. Saint Paul n'était-il pas un grand pécheur et même un persécuteur? Cependant, c'était un vase d'élection, et il est devenu l'apôtre des nations. Joseph, surnommé le Juste, dit saint Jean Chrysostome, était plus estimé des hommes que saint Matthias, et cependant, celui-ci l'était davantage de Dieu, et il fut choisi pour apôtre à la place de Judas. Qui sait même si le salut de tel ou tel homme n'est pas attaché aux fautes qu'il commet? Dieu permet souvent de grands désordres pour tirer l'homme de sa léthargie. Et vous, ne pouvez-vous pas tomber dans l'abîme? Judas ne s'est-il pas perdu après de grandes grâces et dans le plus sublime des états? Saint Augustin, parlant de ce malheureux, dit que c'était un loup couvert de la peau des brebis que Dieu, par un profond jugement de sa sagesse, souffrait parmi les brebis. Hélas, n'en peut-il pas être ainsi de moi? Ne peut-il pas en être ainsi de vous? N'en peut-il pas être ainsi de tout homme? Quel motif de trembler et de ne se préférer jamais à personne? Hélas! Combien d'anachorètes dans les déserts sont tombés pour avoir trop présumé d'eux-mêmes. Combien de religieux, après s'être conservés dans le monde, ont péri misérablement dans le cloître pour ne s'être pas défiés d'eux-mêmes. Il ne faut qu'un grain d'orgueil, qu'un petit relâchement pour conduire bien avant dans l'abîme. Encore une fois, tremblons et ne nous préférons à personne. D'ailleurs, qui peut juger de l'intérieur? De grands saints ne se sont-ils pas fait passer pour de grands pécheurs? N'y en a-t-il pas qui ont été traités en scélérats devant les hommes et qui étaient très saints devant Dieu? Chacun, dit saint Thomas, peut avec justice se mettre aux pieds de tous les autres et à la vue des défauts qu'il remarque en soi-même, s'estimer le dernier des hommes, parce qu'il se connaît et qu'il ignore les dons que Dieu a cachés dans l'intérieur des autres. Suivons ce sage conseil et nous ne nous élèverons jamais au-dessus de personne. L'homme humble n'entre jamais en indignation contre ceux qui ont le malheur de tomber dans quelque crime. Il ne s'aigrit pas contre eux parce qu'il se souvient que s'il est debout, ce n'est que par la grâce de Dieu, et que ce qui leur est arrivé aujourd'hui peut lui arriver demain. Aucun crime, dit saint Augustin, n'a été commis par un homme qui ne puisse l'être par un autre s'il est abandonné de celui qui l'a fait homme. Quel motif de trembler et de ne s'élever jamais au-dessus de qui que ce soit. Combien de malfaiteurs, d'homicides, de scélérats ont trouvé le salut sur l'échafaud, et des mains des bourreaux sont tombées, par l'humilité et la pénitence, en celles de Dieu qui les a reçus dans son paradis. Combien d'autres dont la vie avait été régulière en apparence, qui n'avaient donné dans aucun des excès dont nous venons de parler, qui se sont perdus au milieu même de tous les secours de la religion, et des mains des prêtres sont tombées en celles des démons dans l'enfer? Ah, qui ne craindrait pour lui-même? Qui ne prierait le Seigneur de ne pas l'abandonner et de lui faire miséricorde? Enfin, l'homme humble ne méprise personne. Il excuse les fautes dont il est le témoin. Il les couvre du manteau de la charité. Il parle bien de chacun de ses frères. Il converse avec tous avec affabilité et même avec respect. Il ne conteste jamais, il n'offense jamais personne, mais il s'efforce, en vue de Dieu et pour lui plaire, d'obliger tout le monde, comme saint Paul, qui se regardait comme le serviteur universel. Oh, que l'humilité est une admirable vertu, et que le monde serait heureux si on la mettait en pratique. Troisième partie de l'humilité considérée par rapport à soi-même. Celui qui est vraiment humble jette souvent les regards sur son intérieur pour considérer ce qu'il est. Que voit-il en lui-même? Le prophète, parlant de la mer, dit que cette étendue immense est remplie d'une multitude innombrable de reptiles. C'est ainsi que l'homme humble voit son intérieur. C'est à ses yeux un abîme sans fond de misère et de corruption. C'est une vaste mer où tous les vices te font leur séjour. Il pense à l'orgueil et il l'y découvre. Il pense à l'avarice et il l'y voit accompagné de mille attaches aux choses de la terre. Il pense à la luxure et il s'en trouve souillé. Il pense à l'envie et elle y est avec ses furies. Il pense à la gourmandise, à la colère et à la paresse et tous ses vices semblent avoir choisi sa misérable âme pour demeure. Quelle misère! À la vue de tant de vices et de péchés, il produit 1000 actes d'humilité. Il s'anéantit profondément en présence de son Créateur, et comme le publicain, il n'a d'espérance que dans son infinie miséricorde et ne cesse de répéter: Mon Dieu, ayez pitié de moi, parce que je suis un pécheur. Sachant qu'il n'y a de salut pour lui que dans l'aveu de son néant et de ses crimes, l'homme humble s'adresse souvent à Dieu pour obtenir cette grâce. Il ne néglige aucun sacrifice pour l'obtenir. Il adresse de ferventes prières à la très sainte Mère de Dieu pour obtenir, par sa puissante intercession, une faveur si précieuse. Il a recours aux saints anges qui doivent leur salut à l'humilité. Enfin, il sollicite la protection de tous les saints. Celui qui a ainsi recours à la prière et surtout à l'oraison deviendra bientôt humble. L'oraison, la vraie oraison, la fervente oraison est la mort de l'orgueil. Chose étrange, dit à ce sujet un auteur, chose étrange, plus on est éloigné de Dieu, plus on a d'orgueil. Plus on est proche de Dieu, plus on est humble. La raison en est sensible. C'est que l'humilité est un don de Dieu, une grâce singulière de sa divine bonté, et qu'il n'accorde ce don, cette grâce insigne, qu'à ceux qui la lui demandent et qui s'entretiennent avec lui. Les méchants, qui sont les enfants du démon, sont remplis de son esprit d'orgueil. Quoi de plus capable de nous inspirer l'amour de la prière et de l'oraison? L'homme rempli d'amour-propre ne cesse de parler de lui-même et de tout ce qu'il fait. L'homme humble ne parle point de lui-même. Si une nécessité absolue ne l'y oblige, il s'estime indigne d'occuper la pensée du dernier des hommes. Il ne dit point ce qu'il est, ce qu'il a, ce qu'il a été. Surtout, il ne se vante et ne se loue jamais. Il cache, avec un soin merveilleux, les dons naturels et surnaturels qu'il a reçus de Dieu, et cela afin de les mieux conserver sous le manteau de la sainte humilité. Il aime beaucoup le silence parce qu'il s'estime indigne d'être écouté. S'il est obligé de parler, il le fait avec modestie, d'une voix médiocre, qui devient ainsi le symbole de l'humilité intérieure dont il est rempli. On peut dire que ce point est la prière de touche de la vraie humilité, est la pierre de touche de la vraie humilité et le principal signe auquel on peut connaître où l'on en est par rapport à cette excellente vertu. Si on ne cesse de parler de soi-même et de ses actions, oh, que l'on est loin de l'humilité! L'homme humble se croit inutile à tout bien. Il reconnaît qu'il est indigne et incapable de faire réussir une entreprise. C'est le soleil qui fait lever les plantes, qui les fait fleurir et fructifier, et non le jardinier qui les plante et les arrose, selon la comparaison de l'apôtre. De même, il croit fermement que c'est Dieu, par sa grâce, qui fait réussir les bons desseins. Bien plus, il est persuadé que l'œuvre de Dieu réussira mieux en d'autres mains parce qu'ils mettront moins d'obstacles aux miséricordes du Seigneur. En conséquence, il s'efforce de ne point paraître dans les œuvres où il est employé et quand elles ne réussissent pas, il ne trouve rien de plus naturel. Son indignité, son incapacité ont fait échouer l'affaire. Loin de s'affliger et de se plaindre du peu de succès de l'entreprise, il se réjouit de voir l'ordre rétabli, le néant et le péché récompensés comme il le méritait. L'homme humble redoute les distinctions et les louanges comme la peste, comme l'écueil où la sainte humilité a coutume d'échouer. Il sait que les louanges sont la vraie nourriture de l'amour-propre. Il sait que rien n'est plus dangereux et que, quand le monde est content de nous, il est aisé de se persuader que Dieu doit l'être et qu'ainsi, on peut facilement prendre la réputation de la vertu pour la vertu même. De là, l'éloignement qu'il a pour tout ce qui peut nourrir en lui le ver de l'amour-propre. De là vient que quand on dit quelque chose qui peut tourner à sa louange, il s'enfonce aussitôt dans son néant, comme dans un asile assuré. De là vient qu'il se rit en quelque sorte en lui-même de ceux qui veulent lui rendre quelque honneur, qu'il les regarde comme des aveugles, comme des personnes qui parlent sans savoir. Il a souvent une telle horreur des louanges qu'il aimerait mieux souffrir 1 000 affronts que d'entendre un mot flatteur. Voilà pourquoi il n'accepte jamais les honneurs que par force. Voilà pourquoi, dans la persuasion de son extrême indignité et dans la juste défiance où il est de lui-même, il ne s'engage que pour obéir à Dieu. Et avec précaution dans les emplois élevés et dangereux, où tant d'autres ont fait naufrage et où il n'y a de grand que le péril, ainsi que le dit saint Basile. L'amour-propre a en horreur tout ce qui l'humilie et l'abaisse. L'homme humble estime singulièrement tout ce qui tend à l'anéantir, à le détruire, soit de la part de Dieu par des délaissements et des abandons, soit de la part des hommes qui le mettent en oubli, ou même qui l'accablent d'injures et d'outrages, soit en lui-même par la vue des imperfections innombrables où il tombe. Ce qui faisait dire à saint François de Sales que si nos imperfections pouvaient nous rendre agréables à Dieu, il faudrait désirer de n'avoir aucune perfection afin d'acquérir la sainte humilité. Aussi les appelle-t-il ses chères imperfections. Ceux qui sont vraiment humbles considèrent avec complaisance leur petitesse, leur abjection, leur mépris et s'en réjouissent. Ils estiment beaucoup ceux qui les méprisent et les abaissent dans les occasions, et les regardent comme des hommes très judicieux, comme leurs meilleurs amis qui les éloignent du monde et les approchent de Dieu, comme des instruments que Dieu emploie pour les polir ou les purifier. Tomber dans quelque mépris, voilà ce qu'ils appellent leur bonne fortune. Aucune telle humilité est rare, dit saint Bernard. Cependant, il est certain que dans le christianisme, rien n'est plus grand que ce qui humilie, que ce qui rend semblable à Jésus-Christ, anéanti et crucifié. Pourquoi donc tant de répugnance pour le mépris? C'est que nous ne sommes pas humbles. Méprisons-nous nous-mêmes et nous ne sentirons pas que l'on nous méprise. L'homme humble se croit sur le point de tomber à chaque pas, et quand, en effet, il fait quelque chose, il ne s'aigrit pas contre lui-même et n'en est point surpris. Voilà les fruits de mon jardin, dit-il, avec un sein solitaire, et il ne songe qu'à se relever. Ce qui l'étonne, c'est de ne pas tomber dans de plus grands crimes. Il n'attribue cette faveur qu'à une miséricorde spéciale du Seigneur à son égard. L'homme humble prend toujours pour lui-même ce qu'il y a de plus mauvais en tout. Le plus mauvais logement, le plus mauvais vêtement, le plus mauvais aliment, les offices les plus bas et les estime toujours au-dessus de son mérite. Il se plaît à converser avec les personnes pauvres et simples qui lui représentent plus vivement son sauveur pauvre et humilié. Lorsque la moindre pensée de vaine estime se présente à son esprit, il s'abîme dans son néant et se dit: comment est-ce possible qu'étant ce que je suis et sachant ce que j'ai été, la vanité et l'orgueil puissent trouver place dans mon esprit ou dans mon cœur? L'homme vraiment humble ne s'excuse jamais quand il est repris, à moins que le devoir ou la charité ne l'y oblige. Il aime la correction et il est ravi quand on lui découvre quelques défauts que son amour-propre tenait cachés. Il est même persuadé que dans les corrections qu'on lui fait, la crainte de l'attrister à cause de son peu de vertu fait supprimer plus de la moitié de ses vices. Voilà pourquoi il demande à ses supérieurs à être humilié. Enfin, l'homme humble est ingénieux à découvrir ses défauts lorsque la prudence et l'édification du prochain le permettent, et il cache avec soin ce qui peut l'élever aux yeux des hommes. Il sait qu'un trésor exposé au regard est bientôt enlevé. Il craint que la vanité ne lui dérobe le peu de bien qu'il peut faire. Voilà pourquoi il emploie plus de soin pour se cacher que l'orgueilleux n'en emploie pour étaler aux yeux des hommes ce qui peut le rendre recommandable. Oh, que l'humilité est une admirable vertu! Ne cessons jamais de prier le Seigneur de nous l'accorder et travaillons de notre côté à son acquisition.